Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditrices et auditeurs de Caladma Radio, bonjour. C'est l'heure de retrouver votre émission Couleurs du Monde du mois de février. Et on reçoit aujourd'hui Louise. Salut Louise.
Salut.
Et on a avec nous un petit nouveau, Tanguy.
Bonjour.
Et à la technique, c'est Jean-François.
Salut à tous.
Comme à son habitude. Alors, donc l'émission, elle va porter sur toi, Louise, on l'a appelée la vie originale et atypique de Louise. Mais avant de vous en dire plus, c'est le moment habituel de la chronique Nuance du Monde.
Calade.
Les couleurs du monde.
Alors, c'est autour de qui la chronique, cette émission ?
Je crois bien que c'est autour de toi, Emma, et aujourd'hui, c'est une chronique littéraire.
Eh ben oui, mais c'est vrai que c'est mon tour, j'avais oublié. Eh ben, figurez-vous qu'il y a des livres, parfois, qui traînent des mois, voire même des années, avant qu'on ne se décide finalement à les lire. Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé avec ce livre. C'est le premier roman de Guillaume Meurice. Ça commence à dater, puisqu'on me l'avait offert en 2018. Et il s'est retrouvé plein de fois sous le bas de ma pile de livres à lire, pendant presque 10 ans, en fait. Et puis, belle surprise de retomber dessus le mois dernier. Belle surprise aussi, la qualité d'écriture et l'idée originale de ce roman. Ce roman, il s'appelle Cosme. Et ça commence comme ça. Eh ben non, en fait, cette fois, je ne vais pas commencer par vous lire les premières lignes. Je vais vous commencer par décrire, en fait, ce qui se passe sur les premières pages. À gauche, on a la reproduction de la version manuscrite originale du sonnet voyelle de Rimbaud. Vraiment écrit en de la main de Rimbaud. Et puis, à droite, deux citations. Je les lis. Tu vas voir, Tanguy, il y en a une. La première, elle va te plaire.
Vas-y.
Le nombre est dans l'art comme dans la science. L'algèbre est dans l'astronomie, et l'astronomie touche à la poésie. L'algèbre est dans la musique, et la musique touche à la poésie. L'esprit de l'homme a 3 clés qui ouvrent tout. Le chiffre, la lettre, la note. Savoir penser, rêver, tout est là. C'est de qui c'est ?
Ça me parle bien.
Ouais, c'est Victor Hugo, dans la préface des Rayons et des Ombres. Et puis l'autre, c'est « Rien ne sert de rien, cependant tout arrive ». Ça, c'est Georges Perec dans « La vie, mode d'emploi ». Alors, vous voyez que c'est sous le signe de l'art, finalement, mais aussi des mathématiques, et puis de l'utile et de l'inutilité, finalement, qu'est placé ce roman. C'est pas pour rien, mais je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Et en vrai, ça commence comme ça. Dans ce minuscule appartement, au volet clos, le silence opère. Quelques mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble des Beaux-Quartiers. Une ancienne loge de concierge, recluse derrière la porte d'un grand hall lumineux, aux boiseries vernies et aux marbres étincelants. Passé le seuil, surgissant de l'obscurité, des yeux, identiques, des centaines, collés au plafond. Un même œil photographié sur autant de cartes postales fixées côte à côte. L'observateur est observé, le voyeur est vu. Le malaise se mêle à la fascination, le trouble à l'intrigue, le vertige à l'angoisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quand même assez poétique, ce début de roman. Je vous lis un petit peu plus loin. Alors, on nous parle donc en fait d'un personnage, on ne sait pas encore qui. À ses côtés, un bureau, peuplé d'un bouquet de menthe fraîche, de quelques feuilles griffonnées, d'un paquet de tabac à rouler, de boîtes de conserve pleines de stylos, de feutres, de règles. Une tasse de thé aux 2/3 remplie menace le clavier d'un ordinateur et complète le décor. Son décor. Celui d'un chaos domestique, d'un capharnaüm apprivoisé dans lequel lui, seul, voûté sur son ouvrage tel un pont suspendu, entre l'intangible et le palpable, éclairé par la pâle lueur d'une lampe de bureau, écrit. Des sonnets, quasi exclusivement. 2/4, 2/3, une forme nette, efficace, sans fioritures. rimes enchaînées, croisées, riches, emmêlées. Elles surgissent en flux continu sous l'habit d'un simple stylo. Une poésie d'une subtile brutalité, exacte, affûtée, obéissante à une précision implacable, presque algébrique. Encore un petit clin d'œil, Tanguy. Respectant les règles qu'il s'est lui-même imposées. Une contrainte particulière. Alors, on a l'impression que c'est d'un poète qu'il est question. Hein. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il écrit des sonnets. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que sur la toute première page, il y avait le sonnet voyelle de Rimbaud qui était placé, qui nous donnait un petit indice. Et figurez-vous, j'ai complètement oublié de le dire, mais ce tout premier chapitre, quand je vous l'ai lu, il s'intitule « A ». Ça vous dit quelque chose, peut-être, non ?
Le sonnet ?
Ouais, vous l'avez en tête, le sonnet de Rimbaud ?
Alors, bien sûr, mais peut-être que pour les auditeurs, faudrait que tu nous le rappelles.
Eh ben, ça tombe bien, parce qu'en fait, il est de nouveau reporté dans le roman. Mais juste avant, le narrateur évoque le travail de notre poète, le fameux dont il était question plus haut, et qui est en fait le personnage éponyme du roman. Il s'appelle Cosme Olvera. Et voilà ce qu'on nous dit de lui. Reclus dans son appartement, guidé par le plaisir de l'effort consenti, la quête des profondeurs, ses errances se font envoûtement, ses chemins, exil intérieur, immersion totale. Imperturbable, il triture, torture, déforme, tord, fait plier la langue, cherche la rencontre avec l'évidence. Le mot qui viendra s'encastrer comme la dernière pièce d'un puzzle incandescent. Celui qui s'inscrira dans le rythme que l'alexandrin impose. Des vers tantôt lancés comme des trains à pleine vitesse, tantôt flaques de lave, tantôt caresses ardentes, tantôt coups de fouet, tel un jazzman qui improvise. Tac, 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 et voilà. Et donc, alors j'ai pas lu jusqu'au bout, ce petit bout, je suis allée un petit peu plus loin. Il dit, en parlant de Rimbaud, que la poésie jaillit d'un esprit distant des considérations académiques, il dit précisément « J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. » Écrit Rimbaud. Donc là, il cite Rimbaud. Hein, et il dit ensuite Arthur Rimbaud. Plus d'un siècle plus tôt, le jeune homme de 17 ans, originaire des Ardennes françaises, achevait l'un de ses fameux poèmes « J'y viens, voyelle ». A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A, noir, corset velu, des mouches éclatantes, qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelles. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, riches des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Il est mystérieux, ce poème.
Oui, eh bien, justement, c'est ce mystère-là que notre poète, Cosme, va tenter de découvrir en travaillant de manière acharnée sur ce poème de Rimbaud. En fait, il fait un travail chirurgical et métaphysique à la fois. Alors, je peux vous lire quelques-unes de ses réflexions. Il dit... La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il l'attente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse. Tel est le prix à payer pour voir ce que d'autres ne voient pas. Pour voir autrement, accéder à une autre lucidité, sans a priori, mais voir quoi, si ce n'est ces vers fracassants, clos à double tour, sertis d'obscurité. Et puis ensuite, on repasse sur la voix du narrateur qui nous parle de Cosme, il nous dit, il écrit, depuis quand ? Quelle heure est-il ? tôt le soir, tard le matin, aucune idée. Seul au milieu de sa nuit, cloîtré dans son propre temps, il perd la notion de celui des autres. Il écrit. Et moi, j'aime bien ce côté où on est sur des considérations sur Rimbaud, et puis on revient sur Cosme, et puis ce que pense Cosme de Rimbaud, et puis ensuite ce que fait Cosme, ce que nous raconte le narrateur. À la fin, je trouve ces différentes voies narratives qui se juxtaposent et qui se complètent à la fois, c'est intéressant. Et je vais vous lire la page 40, qui est le moment, en fait, de la fin du chapitre A. Hop, alors, tic-tac, la voilà. On nous dit, il vient de découvrir le secret le mieux gardé de la littérature française. Un secret dissimulé par l'auteur au creux de son œuvre, dans un lieu accessible, non pas à qui sait lire, mais à qui, à l'heure de créer, confronter, inventer, à qui sait voir.
Wow, mais du coup, dis-nous, c'est quoi ce secret ?
Eh ben ça, justement, c'est ça le mystère que Cosme vient de découvrir. Et là, ce que fait Guillaume Meurice, il nous fait une sorte de petit twist, puisqu'il s'en arrête là. Et derrière, nous avons un poème signé Cosme Olvera. C'est un sonnet, régulier, tout comme le poème voyelle. Et puis ensuite, on a le chapitre E. Et là, on nous raconte l'histoire de Cosme, en fait. On nous raconte sa petite enfance, l'histoire de ses parents. Alors Guillaume Meurice, on le sait, il est de gauche, quand même bien à gauche, donc il nous, de temps en temps, il nous met des petites piques. Son adolescence, elle est un peu tumultueuse, il arrête ses études, il va faire des petits boulots, des petits trafics. Et je vais juste m'arrêter sur un de ces petits boulots le Cosme, en fait, il a été engagé comme vigile dans un magasin. Et au bout de quelques jours, il est convoqué par le directeur. Et donc, il est vigile, donc il est censé surveiller ce qui se passe. Et le directeur lui dit « Je vois que vous arrêtez tout le monde et c'est tout à votre honneur. Je vous avais peut-être pas bien expliqué. Voilà, je vais vous demander d'être vigilant. C'est-à-dire, vous voyez, il y en a pour qui on peut avoir plus d'indulgence que d'autres. Ceux qui ont des chariots pleins, par exemple. On peut leur laisser passer un article ou deux. S'ils détournent quelques cochonneries, c'est pas grave. C'est des clients, des bons clients. Pigé ? Il comprend. Ceux qui ont les moyens d'acheter ont autorisation de voler. Donc, je dois laisser passer certains et pas d'autres. C'est ça que vous m'expliquez. Comment je peux faire la différence ? Faites pas semblant de pas comprendre. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a les clients sérieux et il y a les autres. Comprenez bien qu'il y a différents profils. Ouvrez les mirettes. Faites pas moins malin que vous l'êtes, pigé. Besoin de tester les limites de la logique. C'est pas clair. Si, justement, c'est clair. Ce qui est clair, vous laissez passer. Ce qui l'est moins, vous les chopez. Voilà. Je vous parle de la tronche. On n'est pas là pour emmerder les gens du coin. Par contre, les marrons et les foncés, pas de cadeau. Ça vous a pas servi de leçon, le bronzé qui voulait vous faire la peau, pigé. Et donc, évidemment, Cosme, comme vous devez vous en douter, n'accepte pas ça. Il va même finir par perdre son travail parce que, évidemment, il refuse ce racisme. Il finit par se faire renvoyer. Et puis il va alterner les petits boulots, écrire des poèmes, il aura des échecs aussi amoureux, et les échecs aussi c'est un jeu auquel il joue assidûment, et puis Rimbaud.
Mais du coup j'adore, mais le secret du sonnet voyelle.
Ah, tu veux le connaître Tanguy, peut-être? Oh, oui. Auditrices et auditeurs, vous voulez le connaître? Lisez Cosme de Guillaume Meurice.
Galade.
Les couleurs du monde.
Alors, auditrices et auditeurs de Caladma Radio, on est toujours dans l'émission Couleurs du Monde. On est en compagnie de Louise. Et du coup, on va commencer un petit peu par parler de ta vie. On était parti sur trois parties. Je fais ma propre offre un peu. Donc, ta vie en camion, un choix de vie qui est un peu atypique. Du coup, tu vas nous expliquer pourquoi. La deuxième idée, c'était de parler des violences sexistes et sexuelles. Parce qu'être une femme libre et indépendante, c'est un peu un revers de médaille parfois. Et puis, dernière chose, tu es aussi une intermittente du spectacle. Et donc, tu vas aussi nous expliquer ce que tu fais. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Moi, c'est Louise. Je bouge beaucoup. J'adore voyager. J'adore la musique. Mm-hmm. Par rapport à mon travail, c'est ça qui m'a donné envie aussi de...
Ouais, de faire ce travail-là.
De bosser dans le domaine du spectacle.
Ok. Et du coup, alors, ce choix de vie en camion, c'est lié à ça, au fait que tu aimes bouger ?
Ouais, bah, carrément. Bah, en fait, j'ai essayé quand j'étais plus jeune de vivre en appartement, mais ça ne me convenait pas. J'avais l'impression de ne pas avoir passé les saisons. Après, c'était en ville aussi, et du coup, la nature me manquait beaucoup.
Ok.
Et du coup, y avait déjà de ça, et le fait que j'ai toujours aimé bouger, parce que même avant, quand j'avais un appartement, j'avais une voiture que j'avais aménagée, et des moments, j'habitais plus dans ma voiture que dans mon appartement.
C'est devenu une évidence, en fait, du coup. Tu t'es rendu compte que en vivant plus dans ta voiture, que finalement, peut-être un appartement, c'était pas ce qui te convenait comme mode de vie.
Ouais, c'est ça, parce que du coup, j'adorais le fait de pouvoir se sentir libre et d'aller où bon me semble quand j'en avais envie.
Ok.
Et il y a aussi le fait d'avoir quelque chose qui était vraiment à moi, parce que j'avais pas beaucoup de moyens financiers, tout ça. Et le fait d'avoir un camion qui était à moi et que je pouvais aménager comme je voulais et faire mon propre petit cocon à moi.
Ok, c'était important pour toi de te créer ce petit cocon qui t'appartienne finalement.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et l'idée du camion, c'est venu comment? Tu t'as trouvé comment ton premier camion par exemple? Enfin, je sais pas, moi je saurais pas où chercher par exemple.
Bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai besoin? Et puis aussi, j'avais pas non plus un budget énorme. Ouais.
Tu travaillais déjà quand t'as acheté ton camion?
Ouais, j'étais déjà intermittente.
Ok.
Du coup, ma voiture m'a lâché que j'avais aménagée.
Ok.
Mais j'avais déjà, même quand je l'avais encore, je comptais la garder et acheter un camion quand même. J'avais déjà ce projet, donc j'avais mis un peu de côté pour acheter mon premier camion.
D'accord.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai besoin? Un camion qui est quand même une mécanique fiable, plutôt un peu plus vieux, parce que j'avais pas les moyens de m'acheter.
Des choses très neuves,
Voilà. Mmh. Et aussi parce que les côtés de la mécanique, c'est plus accessible de faire de la mécanique sur un véhicule plus ancien que sur un véhicule où c'est blindé d'électronique.
Tu t'y connaissais un peu en mécanique avant, ou c'était une découverte aussi?
C'était une découverte.
Oh, trop bien.
Ouais. Et t'as appris comme ça sur le tas à bricoler ton camion du coup?
Ouais, du coup, parce que même dans le bricolage, j'avais quelques notions basiques, mais j'ai appris beaucoup à faire un peu tout, parce que j'ai tout aménagé moi-même. Et la mécanique aussi, parce qu'à un moment donné, quand on se retrouve en carafe au bord de la route, c'est bien d'avoir pouvoir mettre un peu les mains dedans, quoi. Mais j'avais plein de copains qui étaient en camion, donc on bougeait beaucoup, et puis eux, ils pouvaient m'aiguiller des fois aussi sur... parce qu'on a quand même une bonne solidarité, on a fait beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont en camion, du coup, et c'est trop chouette. Moi, j'adore quand on fait les gros convois et qu'on bouge tous ensemble.
Ouais, c'est ça. Au départ, tu te déplaçais pas toute seule, tu te déplaçais plutôt avec des amis.
Ça dépend, parce que du coup, j'aime bien aussi, j'aime bien la solitude des fois.
Ok, j'aime bien être tranquille.
Ouais, j'aime bien être tranquille, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir des moments où on est avec plein des copains, parce qu'on est ensemble, mais on a chacun notre petite maison.
Ouais.
Et du coup, voyager, c'est cool, quoi.
D'accord.
Enfin, plusieurs.
Et du coup, t'as mis combien de temps à faire l'aménagement du camion? Ou peut-être que t'as pas fini, ou ça change tout le temps ?
Bah, j'ai mis, je sais pas, ce que j'ai fait au fur et à mesure aussi. Et après, j'ai fait beaucoup de récup, parce que le camion que j'avais acheté, je devais vider ce qu'il y avait déjà dedans. Je devais vider ce qu'il y avait déjà dedans pour refaire, donc ça m'a pris un peu du temps. Et après, j'ai fait petit à petit. Après, j'ai mis l'électricité quand j'avais un peu plus d'argent.
Ça s'est fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ouais, parce qu'après, il y a toujours, comme dans une maison, au final, toujours des choses.
Ça évolue tout le temps.
Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, en quelques mots, au quotidien, comment ça se passe finalement de vivre dans un camion? Parce que je pense vous n'êtes pas si nombreux que ça. Nos auditrices et nos auditeurs connaissent peut-être pas trop.
Bah, moi, j'adore, parce que du coup, c'est une vie plus simple, on est plus connecté avec la nature, parce que, mis à part quand je travaille ou je me rends à des endroits pour mon travail, mais sinon après je peux choisir où je veux, et clairement moi j'adore être dans la nature.
Par exemple, tu vas te poser dans une forêt, au bord d'une forêt, quelque chose comme ça.
L'été, les lacs, parce que je fais du paddle et du kayak. Et j'adore. Super. J'adore me balader, au bord de l'eau, me baigner, découvrir plein d'endroits sympas.
Ok.
Et vraiment bouger, quoi.
Du coup, au quotidien, sur la partie vacances, nature, etc., trop bien. Et quand tu bosses ou que tu bosses, alors on parlera de ton boulot dans la troisième partie, quand tu bosses en ville, tu fais comment? Tu t'installes où? Ça se passe
En général, vu que je bosse dans le spectacle, il y a toujours des parkings où on peut se stationner, vu que y a forcément les SMI pour le matos de travail. Ah. Du coup, je me garde dans les parkings du travail. Après, au quotidien, sinon, la vie, c'est plus restreint, quoi. C'est pas comme quand dans un appartement, mais au final, moi, c'est plus minimaliste, on va dire.
Oui, OK.
Mais moi, ça me convient.
Mm-hmm. Est-ce que... j'ai déjà parlé ici de décroissance. Est-ce que c'est un truc qui te parle ou le fait que ce soit minimaliste, c'est comme ça et ça apporte une certaine décroissance, en quelque sorte. Enfin, t'as pas à la télé et ce genre de truc dans ton camion.
Non, la télé, je la regardais pas trop spécialement.
Ouais.
Oui, du coup, c'est vrai que moi, même par rapport à ma consommation d'eau ou par rapport à la consommation énergétique, moi, ce qui me donne mon électricité, c'est le soleil. Ouais. Donc, quand je vois mon empreinte écologique par rapport à des personnes qui sont en maison plus les voitures, une voiture et tout ça.
Oui, elle est bien plus faible.
Ouais, du coup, même si je roule, c'est un camion thermique, c'est pas un camion électrique. Mais...
Ouais. Ouais, le ratio est quand même largement, j'imagine, inférieur pour toi par rapport à un mode de vie un peu moyen.
Un mode plus classique, quoi.
Ok. Alors, on va se faire une petite pause musicale et on revient juste après.
Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente. Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux. Tailler un peu la route avant d'être vieux. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs. Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères. Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs. Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières.
Ils ne savent pas que je mors, que ma vie sent le soufre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y'a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâches, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'enlire, rends-moi la calme, mes deux milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer, au loin la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal, et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella.
J'aime être seul, partir à la pêche, même si je pêche pas. Partir à la fraîche, moi j'ai la parole sèche. Comme mon apparence triche, je fais pas très bien semblant. Comme mon apparence flanche, je prends pas souvent sur moi. Je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Et pour qu'ils se ressourcent de mes tristes rengaines. Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire rien si je veux. Régulièrement je me retire, désolé mais sans rire. Je te dirai jamais
viens si tu veux. Ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais. Passer la quarantaine, je vais pas beaucoup changer. Je vais quitter la Michène, la Michène, la Michène. Et quand je reviendrai, la Michène, la Michène, la Michène, c'est que j'aurai voyagé. Tailler la route, tailler la route. On va, on va, on va. Tailler la route. On va, on va, on va. Tailler la route. On va, on va, on va. On va, on va, on va. Tailler la route. On va, on va, on va. Tailler la route. On va, on va, on va.
Auditrices et auditeurs de Caladma Radio. On est toujours dans l'émission Couleurs du Monde et pour cette émission de février, donc on reçoit Louise et on a déjà parlé dans une première partie de sa vie en camion. Et avant de passer à la deuxième partie, tu vas juste nous dire quelle est la chanson qu'on vient d'écouter et pourquoi tu l'as choisie.
Du coup, là, c'était Tailler la route.
Ouais.
Et je l'ai choisie parce que déjà, il y a plusieurs artistes que j'aime beaucoup.
Ouais, c'est Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade.
Et je trouve que leur énergie elle fonctionne bien sur cette musique et ça me parlait beaucoup par rapport à moi et ma vie en camion.
Bien sûr.
Et le fait de voir plein de paysages, de changer de décor, je la trouve très émouvante et super bien écrite. Quoi.
Ça pose des mots sur des choses que tu vis au quotidien.
Ouais, c'est ça.
C'est trop bien.
Alors, du coup, la deuxième partie, c'était l'idée que est-ce que être une femme libre et indépendante, comme tu l'es plus que d'autres, du coup, il y a un revers de la médaille, peut-être. L'idée, c'était de parler des violences sexistes et sexuelles. D'abord, qu'est-ce que c'est que les violences sexistes et sexuelles? Ça englobe pas mal de choses. Est-ce que tu veux nous donner, toi, ta définition?
Je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait quand même, moi... J'ai vécu pas mal de situations de violences sexuelles et sexistes.
Ouais.
Non, des violences conjugales, etc.
Ok.
Et aussi des choses vraiment traumatisantes. Quand, par exemple, quand on va cramer mon ancien camion, mon premier camion.
Ouais. Peut-être, tu nous en parleras un peu.
Et du coup, il y a eu aussi... J'ai eu aussi des viols, j'ai vécu pas mal de violences de la part des hommes envers moi. Quoi.
Ouais, et justement, en fait, ce que tu as dit, ça me fait rebondir sur la définition. En fait, dans violences sexistes et sexuelles, on pense au viol en premier, mais il n'y a pas que ça, en fait. Une main aux fesses quand tu passes dans la rue ou quand tu es dans un bar, ou même un type qui vient de dire t'as des beaux seins ou je sais pas quoi. En fait, ça fait partie aussi de ces violences sexistes et sexuelles. Après, des choses plus graves dont tu as parlé, comme ton camion, par exemple, c'est aussi... ça en fait partie dans le sens où c'est un homme qui s'est attaqué à toi et à tout ton univers, finalement. Si on prend juste quelques chiffres, en gros, il y a au moins une femme sur cinq qui a déjà subi des violences d'ordre sexuel. Je ne parle pas des violences sexistes, mais d'ordre sexuel, alors que ce soit viol, attouchement ou ce genre de choses. Une sur cinq, ça veut dire qu'en fait, déjà vous baladez dans la rue, les filles que vous croisez, dans votre famille, c'est sûr qu'il y a des filles qui ont subi ce genre de violences. Le fait est que c'est le lot des femmes. Alors dans ton histoire, je sais pas, est-ce que tu veux nous développer un de ces aspects-là un peu plus, peut-être, qui est quelque chose qui tiendrait à cœur de partager parce qu'aussi les auditeurs et surtout les auditrices, peut-être, peuvent se reconnaître ou se sentir, sentir de l'empathie de que quelqu'un en témoigne à la radio de quelque chose comme ça qui, en fait, peut-être leur arrive et dont elles n'ont jamais parlé.
Bah, c'est vrai que en ce moment on entend beaucoup parler à propos des viols depuis MeToo et ça est bien avancé sur ce sujet-là et ça oui. Je trouve ça chouette. Mais ce qu'on entend un peu moins parler, c'est je trouve, oui. Après c'est que mon avis, mais sur les violences conjugales, oui. C'est beaucoup plus insidieux, où ouais. on en entend beaucoup moins parler et les encore moins de la part des victimes qui ont subi parfois au péril de leur vie même.
Ouais.
Parce que quand on voit qu'en 2025, il y a eu encore plus de féminicides.
Ouais, j'ai pas les chiffres, je sais pas si tu as ça en tête ou si vous avez les garçons.
Il y en a eu plus qu'en 2024, mais okay. j'ai pas eu les chiffres exacts. J'ai plus les chiffres exacts.
Moi, c'est pas grave.
Mais du coup, moi, j'ai subi plusieurs fois des violences. Je me suis fait frapper dessus par un de mes ex pendant un an.
Ok. Et tu vivais avec lui à ce moment-là ?
Bah, j'étais en camion. J'étais en camion. Lui, il avait aussi son propre camion, donc on était souvent ensemble, mais du coup, j'étais...
T'avais quand même ton refuge, mais vous étiez quand même souvent ensemble, ouais.
On était souvent ensemble, ouais.
Ouais.
Et du coup, c'est jusqu'au point où il m'a étranglé, que j'ai failli passer, et que cette fois-là, j'ai...
Ça a été le déclic, en fait.
Ouais.
Ouais, ok.
Après deux jours de violence et d'humiliation...
Ouais.
J'avais des marques partout sur le visage, les marques de strangulation.
Ok.
Et du coup, ça avait été très difficile après, parce qu'on était restés ensemble 5 ans quand même.
Ouais, ok.
Et du coup, après, je me suis remis avec quelqu'un et c'est la personne qui a cramé mon camion.
Ouais.
Et qui m'a aussi frappé, quoi.
Ok.
Avant de faire ça, il m'a mis une grosse patate de forain en pleine tête, quoi. Et après, il a cramé mon camion qui a...
Devant toi, en
devant
plus,
mes yeux, j'ai vu toute ma vie partir en fumée, quoi, littéralement. Ouais.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si... Pour nous, c'est comme si c'est notre maison qui prenait feu, finalement.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est très traumatisant. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de séquelles. Le 23 février 2026, là, ça fera un an.
Ouais.
Donc, ça fait même pas encore un an.
C'est tout récent, encore.
Ouais. Ouais.
C'était très compliqué, mais je me suis retrouvé un nouveau camion que je suis en train d'aménager là. Mm-hmm. Mais avoir l'énergie de se reconstruire après des choses aussi difficiles.
Ouais. Et du coup, là, ça a été compliqué aussi quand t'as porté plainte parce que. C'est ça, un moment, t'as eu un. Enfin, si je me souviens bien, parce qu'on se connaît par ailleurs, t'as eu un accident qui n'était pas en lien avec ça et qui a fait que t'as pas pu être présente.
Ouais, c'est ça. En fait, j'avais eu un accident où je m'étais cassé 4 vertèbres.
Ouais.
Les côtes et le sternum. Et en fait, vu qu'il a cramé mon camion, moi, le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour voir si j'avais pas eu, vu qu'il m'avait frappé, pour voir si j'avais pas eu des problèmes par rapport à ça.
Mmh.
Et pendant ce temps-là, il y a eu l'audience, quoi.
Oui.
Et du coup, l'incendie de mon camion, c'est ce que j'ai déposé 2 plaintes conjointes, une pour violence et une pour...
Dégradation de biens matériels, quelque chose comme ça.
Dégradation de biens par moyen dangereux, c'est le terme exact.
Mm-hmm.
Et en fait, ça a été classé sans suite, ça. Donc, en fait, la justice...
Et t'étais pas là pour te défendre parce que t'étais à l'hôpital à ce moment-là suite à ton autre accident.
C'est qu'en fait, c'est vu que c'était pas très longtemps après ma convalescence.
Ouais.
Et j'ai vu qu'il m'avait frappé.
Mm-hmm.
Du coup, j'ai eu peur parce que ça m'est refait, parce que c'était au niveau des cervicales, mon accident passé.
Ouais, c'est ça.
Mm. Et vu qu'il m'a mis vraiment un coup très fort, j'ai préféré vérifier que ça n'avait pas eu un impact par rapport à l'accident que j'avais eu récemment avant. Ouais. Et du coup, l'incendie, du coup, classé sans suite. Et normalement, il aurait dû... Il avait pris 6 mois pour la violence avec 3 mois avec sursis, mais il n'a pas été en prison. Donc la justice, encore une fois, fait bien ce qu'elle veut.
Mmh.
Et du coup, pareil, il devait... Parce que j'ai dû aller au tribunal plusieurs fois, j'ai dû plaider. C'était très difficile pour moi de faire ça.
Ben ouais, bien sûr.
Et même les dommages et intérêts, vu qu'il est insolvable, j'ai rien. Donc en fait,
il n'y a pas une caisse dans ces cas-là. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais.
Il y a un fonds d'aide aux victimes.
Oui.
Qui donc du coup mon avocate a fait la demande, mais
d'accord.
C'est une procédure qui est très longue. Ouais. Et
donc
ça,
là, tu attends.
Ouais. Et c'est un plafond aussi par rapport aux.
D'accord.
Ils peuvent pas donner. Donc. Pardon. Donc, ils peuvent pas donner la. Enfin, j'aurais pas la somme que j'aurais dû.
Oui, t'aurais pas la somme déjà que tu aurais dû toucher. Et en plus, c'est très long. Et comme toi, c'est ta maison, finalement, ton camion, t'as été obligé de racheter avant, en fait. De racheter avant d'être indemnisé tout ce qui était dedans.
Je me suis retrouvée avec. J'avais juste mon téléphone.
Ouais, t'avais plus de vêtements.
J'avais même pas de culotte parce que j'étais en pyjama pour dire.
Ouais,
je me
suis
retrouvée vraiment juste avec. J'avais pris la clé de mon camion parce que je me suis dit. Parce qu'avant de mettre le feu, il avait déjà éclaté le pare-brise à grands coups de poing.
Ouais, d'accord.
Éclaté le rétroviseur aussi à grands coups de poing. Après moi,
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, s'il pète un plomb et qu'il me vole mon camion. Je récupère les clés, mais c'est le seul truc que j'avais, quoi.
Ouais.
J'ai regardé, c'était horrible. Tous les jours, je revois cette scène de mon camion qui brûle.
Qui part en fumée devant tes yeux, en fait.
Et avec toutes mes affaires, quoi. J'avais même plus de fringues, plus de maison. Je me suis retrouvée à la rue avec mes chiens.
Ouais.
Heureusement que j'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis.
Ouais. T'étais dans une région proche de ta famille à ce moment-là ? T'avais du soutien autour ?
Non, j'étais au milieu de la France, ça s'est passé vers Guéret.
Ouais.
Et du coup, j'ai des amis qui étaient à Saint-Nazaire qui sont venus me chercher. En fait, j'ai habité chez des amis à Saint-Nazaire pendant un petit mois. Okay. Et après, mes parents m'ont reprêté une voiture. Donc, du coup, j'ai pu rebouger pour retourner travailler.
Ouais. Parce que tu travaillais à ce moment-là, tu étais sur un.
En train de recommencer à travailler après mon.
Après ton accident.
Après mon accident. Ouais. Et du coup, c'est un peu tout décalé parce que clairement, après le choc, psychologiquement, j'étais pas du tout apte. Et puis, j'avais même plus de moyens non plus de me déplacer. Parce qu'en plus, du coup, vu que c'est ma maison et mon moyen de me déplacer, avec mes deux chiens, je peux difficilement me déplacer juste en train.
Ouais, bien sûr, ouais. C'est compliqué.
C'est plus compliqué.
Là, aujourd'hui, du coup, avec ton mode de vie que tu as. Tu te sens plus exposé différemment à tout ce qui est violence quotidienne ?
Pour les violences sexuelles, je trouve que je suis moins exposé que quand j'habitais en ville. Parce que quand j'habitais en ville, franchement, il m'arrivait aussi plein de trucs. Et moi, j'étais pas sereine de rentrer chez moi le soir, quoi. Toute seule quand je sortais avec des amis, quoi.
Ok. Et là, dans ton camion, tu te sens plus sereine, finalement ?
Ah ouais, grave.
Ok.
Franchement, je me sens plus sereine et aujourd'hui, j'ai aussi bien appris à me défendre et franchement, je me laisserai plus faire.
Ouais.
Très bien.
Ouais, c'est-à-dire que ça est-ce que tu peux dire que là, maintenant, tu peux dire que tu arrives à sortir quand même du positif de tout ça ?
Je sais pas si je peux. Je sais pas vraiment si j'arrive à sortir du positif parce que c'est encore vraiment très difficile.
Ouais, c'est encore. Frais, encore trop proche.
Ouais. Ouais. Mais j'essaye d'avancer dans ma vie et quand même de rebondir, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas.
Ouais.
Ça a été vraiment quelque chose de très dur à vivre, quoi.
Ouais. J'ai l'impression en tout cas que ça te donne la niaque de te dire je me laisserai plus faire. Et,
je préfère rester toute seule maintenant.
Peut-être tu l'aurais pas dit avant en tout cas.
Mais t'es pas resté chez tes amis à Saint-Nazaire ou chez tes parents. T'as choisi
de rebondir. T'as continué en fait. Ouais,
je repars, je recommence, je refais mon camion et.
Ouais, un nouveau camion, nouveau départ.
Ouais.
Parce que il a beau avoir détruit ma vie par les flammes, moi c'est quelque chose, c'est un mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu te remets pas en appartement tout ça. Mais moi je l'aime ce mode de vie, je l'ai choisi et j'ai pas envie de le quitter, quoi.
Ouais. Et c'est en tout cas moi je trouve que c'est super courageux de t'être dit tout de suite allez je rachète un camion, je repars et je me relance. C'est un bel exemple. Donc c'est chouette qu'on le partage aujourd'hui à la radio. On va se faire une deuxième pause musicale sur ces entrefaites. auditrices et auditeurs de Caladma Radio. On est toujours dans l'émission Couleur du Monde, en compagnie de Louise. On a parlé de sa vie en camion, on a parlé aussi des violences sexistes et sexuelles, et on va revenir maintenant sur un sujet un peu plus joyeux avec ton métier. Mais avant ça, tu vas nous dire ce qu'on vient d'écouter.
Ce qu'on vient d'écouter, c'est High Life de Omega Nebula.
Ok, tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce morceau de musique?
J'ai choisi ce morceau parce que du coup, ça représentait bien, moi qui adore la musique, ça représentait bien ma vision de comment profiter. J'adore danser et j'adore, j'adore le dub parce que j'ai une sono dub aussi.
Ok.
Et du coup, c'est... Ce que je ne faisais pas dans mon travail, je l'ai fait aussi dans ma vie personnelle, par rapport à la musique.
Ah bah, trop bien.
Impec. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a dit que tu étais intermittente du spectacle, mais en fait, tu fais un métier un peu particulier. Ce n'est pas ça qu'on s'attend quand on parle d'intermittente. Est-ce que tu peux nous dire, donc, quel est ton métier?
Mon métier, c'est scaffolder rigger.
Est-ce que tu peux nous expliquer?
Je vais vous expliquer. Moi, je travaille dans la structure de scène. Donc, je monte les scènes, en gros, pour les festivals, en général. Et du coup, scaffolder, ça veut dire monteur d'échafaudage. Mais il faut savoir qu'il y a plein de styles de scènes différents. Des qui sont faits en échafaudage, des qui sont faits avec ce qu'on appelle le black steel. Donc, des assemblages de gros morceaux de ferraille, quoi.
OK.
Et rigger, en fait, c'est aussi dans la structure de spectacle, mais c'est une fois que les scènes sont montées, c'est les moteurs, en fait, qu'on accroche pour faire des superchages, pour mettre le son, la lumière, la vidéo, les décors et tout ça.
OK. Donc, toi, tu montes la scène et aussi tu accroches ces fameux moteurs-là qui vont servir après à accrocher les sons, les lumières, tout ça.
Ouais, c'est OK. Et du coup, c'est du travail en hauteur, tout ça. Et ouais, moi, j'adore, quoi.
Ouais, tu montes à... C'est quoi ton maximum de... T'es monté à combien de mètres?
Le plus haut, je suis monté 29 mètres.
Ok, ah oui,
ouais. Et tu montes des scènes dans des salles aussi, parfois? Ou c'est uniquement sur des festivals ou des lieux qui n'étaient pas destinés pour?
Dans les salles aussi, ouais.
Salles aussi, installation de salles.
Installation en salle, en extérieur, un peu de tout. J'ai fait aussi sous la neige, en station de ski, sous la chaleur en plein été.
Mais... Ok. T'as toujours bossé en France ou t'es partie parfois à l'étranger?
Non, je suis partie à l'étranger. Ouais. J'ai eu la chance de partir à Rabat pendant un mois en juin 2024 pour faire du rig justement là-bas. C'était un super chantier que j'ai adoré.
Ok. Et il y a des, enfin, parmi ce que tu as monté, il y a des groupes un peu connus, beaucoup connus.
Des scènes qui t'ont marqué?
Il y a des scènes qui m'ont beaucoup marqué. Ouais, j'ai fait beaucoup de personnes très connues, mais c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que des fois j'ai fait des petits festivals, des fois des gros, des pareil. Et dans les artistes un peu connus, j'ai déjà fait Rammstein, Muse.
D'ailleurs, un peu connu.
Un peu connu, ok.
Ah oui, bien connu.
Au sens de la litote.
Très, très connu.
Très, très connu. Et d'ailleurs, la scène de Muse, je l'avais adorée, elle était trop bien.
Ouais. Et tu te rappelles de particularités, des trucs un peu sympas qui te reviennent
Pendant le concert ou...
Sur la scène, sur en la fait. Scène. Est-ce qu'ils avaient un peu des spécificités
Justement, c'est ça qui était trop cool. C'est que là, en fait, au lieu d'avoir des grosses sections de ferraille entières, on assemblait les ponts de nous, donc en fait ça faisait des ponts géants. Et quand c'était en haut, on pouvait courir à l'intérieur, quoi.
Ah ouais?
Quand on était.
C'est génial!
Trop bien fait. Il y avait des garde-corps sur les côtés, et en fait tout était installé. Ça faisait comme un genre de gros Lego, quoi.
Ok. Tu courais en haut du gros Lego?
Ouais.
À 29 mètres.
À 29 mètres, c'est ça.
Non, là c'était moins haut, ça. Mais c'était. Je pense que là ça devait être à. 15 mètres, quelque chose comme ça.
Ok, ouais, quand même.
Et c'est combien de camions qui débarquent avec le matériel dans ces cas-là?
Rammstein, par exemple, c'est à 250 semis, quoi.
Ah ouais?
Je crois.
C'est énorme.
Mais peut-être pas un peu plus.
Et vous avez combien de temps pour installer tout ça?
Ça fait vraiment une petite fourmilière parce qu'on fait vraiment un travail d'équipe, quoi.
Ouais.
Et du coup, on est là, parfois, on est 300, 200 à plein de petites phobies qui sont là, qui s'activent à faire des choses. Et du coup, ça dépend, mais sur les gros chantiers, tu peux avoir 6 jours, 7 jours.
Ok. Et ouais, des fois, c'est quand même un sacré boulot. Hein.
Après, le démontage, c'est toujours plus rapide que, ouais. que le... Parce qu'en général, ils mettent encore plus de gens.
Ouais, ok.
Et du coup, ça dépend des chantiers, ouais. Après, comme au Maroc, je suis restée un mois ouais. et il y avait 9 jours de festival.
D'accord, ok, ouais. Ouais, donc là, il y avait beaucoup d'installations et de démontages.
Bah, du coup, c'est beaucoup d'installations, parce que là, je faisais vraiment le rig. Et en fait, on était deux et on avait 125 moteurs à gérer, ce qui est beaucoup.
Ok. Et tu fais la maintenance aussi pendant le spectacle ou là, c'est quelqu'un d'autre? Imaginons qu'il y a un souci pendant le concert ou je sais pas.
Bah après, s'il y a un souci, on est vraiment pas dans le beau drap, quoi. Parce que c'est justement, tu n'es pas censé avoir...
Ouais, ok, d'accord. Donc en général, il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est ça. Ou alors si, moi, mais pour ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, il y a ce qu'on appelle les moteurs asservis. Donc d'accord. Ça, c'est des moteurs qui peuvent être pilotés pendant le concert parce qu'ils bougent en même temps.
D'accord,
alors
ok.
Alors en général, du coup, quand nous, on installe les moteurs pour les ponts, une fois que c'est pigé à la bonne hauteur, tout ça... Normalement, il n'est pas censé
bouger,
à part du coup dans le cas où c'est des moteurs asservis.
C'est trop bien et j'adore la façon dont tu en parles. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que c'est pas un métier commun.
Bah, c'est vrai que c'est pas très commun. Puis il y a de plus en plus de femmes qui font ça, mais c'est vrai que.
C'est plus un métier d'homme quand même.
Ouais, je quand même beaucoup, travaille du coup beaucoup avec des hommes. Mais ça commence aussi, ça a un peu à évoluer. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est qu'en fait, j'avais. Toujours eu envie de bosser dans le spectacle. Et au début, je voulais plus m'orienter vers le son parce que c'est ce que j'aimais bien. Et en fait, après, quand j'ai commencé à voir les structures, en fait, ça m'a passionné. Ça m'a vraiment donné envie de faire ça parce que...
Ouais, t'as eu un coup de cœur.
Ouais, ouais, pour la ferraille, quoi. Ouais. La construction. J'ai vraiment la construction, en fait, le rapport des charges et tout. Puis même la technique, l'adrénaline, parce que avoir les techniques des postures quand tu es en l'air, que tu dois porter et tout, puis le travail d'équipe, quand on fait des grandes chaînes, c'est super chouette. Le grutage des grosses pièces.
Okay.
Tirer des bâches et tout, j'adore. Et
tu vois les petits trucs petit à petit qui s'assemblent au fur et à mesure.
Ouais, et puis quand tu vois à la fin la scène, quand elle est montée, tu te dis, ouais, on a fait ça tous ensemble, c'est trop cool.
Alors, les auditrices et les auditeurs, vous ne voyez pas, mais là, elle a des petites étoiles dans les yeux et c'est super chouette, c'est hyper communicatif. Ça fait trop plaisir de te voir parler de ce que tu fais, de ton métier.
Et écoute, au moment du démontage, il y a une petite nostalgie ou c'est bon, on a fait ce qu'on a à faire, on passe sur un autre truc?
Ça dépend parce qu'après, peut avoir une petite nostalgie, surtout si avec les collègues, on n'est pas sur les mêmes chantiers après. Des fois, c'est un peu émouvant quand c'est toujours un petit truc quand t'as fini de démonter et qu'il n'y a plus rien. Tu te dis, c'était sympa quand même.
Ouais, ouais, ok. Et physiquement, c'est pas. Enfin, je veux dire, t'es quand même un plutôt petit gabarit. C'est pas trop dur?
C'est vrai que c'est assez physique, quoi. Et puis surtout l'été, en termes de chantier, c'est non-stop, quoi.
Ouais.
Par exemple, quand je suis allée au Maroc, j'ai travaillé tous les jours pendant un mois, quoi.
C'est légal, ça?
Dans le spectacle, ouais.
Ouais. Ouais.
Plus ou moins, ça, il s'arrange, quoi.
Ouais, ok.
Mais du coup, c'est pareil, en fait, parce que l'été, moi, ça m'est déjà arrivé de passer 3 mois non-stop tout le temps.
Ouais, sans pause. Donc, ça, c'est dur.
Sans pause, pas de... Enfin, puis des fois, de faire travailler le jour, la nuit.
Ouais.
Donc, c'est un bon rythme, et physiquement aussi. Après, au début, le premier chantier de l'été, t'es un peu... Le temps, et après, vu qu'il y a la mémoire musculaire, quand même, ça revient.
Ouais, ça revient. C'est-à-dire qu'il faut le temps de se remuscler un coup sur le premier chantier, et après,
Et après, ça revient. Le rythme revient vite, quoi.
Il y a des inconvénients si tu devais donner des inconvénients à ce métier?
Moi, je trouve pas trop d'inconvénients, parce que, justement, j'aime bien aussi. Puis, vu que je fais, c'est qu'il y a des périodes où c'est vraiment super speed. Et puis, vu que c'est intermittent, il y a des moments où, je peux avoir du temps. Et ça, par exemple, ça matche trop bien avec ma vie en camion, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux, quand c'est pas l'été et qu'on est moins dans les périodes de rush, tu peux aussi aller juste te balader.
Ouais, profiter, avoir du temps. Parce que c'est vrai que avant de bosser dans le spectacle, j'ai fait plein de boulots alimentaires dans plein de trucs différents. Mmh. Et en fait, le fait de bosser du lundi au vendredi tout le temps pareil, ça me rendait...
Ouais, ça te convenait pas du tout.
Ça m'allait pas trop. Et pareil, ouais. Et pareil pour le mode de vie appartement et travailler du lundi au vendredi.
Ouais, donc tu trouves une sorte de liberté, une cohérence entre ton métier, ta vie en camion, tes choix de vie et tout ça.
Ouais, carrément.
Ouais, ah, tout ça, super. Ça s'imbrique finalement et ça se goupille bien. Moi, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans ton métier, quand tu faisais du montage ou démontage de scène, un truc où c'est vraiment le moment super marquant que tu pourrais nous raconter?
Bah, des fois, j'ai vu des trucs de ouf, alors je sais pas lequel choisir. Je sais pas si je dois choisir un moment positif ou un truc pas trop positif.
C'est comme t'as envie.
Mais c'est là qu'on se voit, qu'on est tout petit et qu'il y a quand même une question de sécurité. Du coup, je vais peut-être raconter un truc qui est moi. Mais par exemple, à un moment donné, on était à un démontage et le chef de chantier, il a mal géré la descente des moteurs et du coup, il a, au lieu de reprendre le temps de remettre pour que le toit de la scène il descende
doucement, tranquillement.
Tranquillement, et en fait, les moteurs, ils étaient mal équilibrés. Du coup, il y en a des chaînes qui ont commencé à faire comme ça, à bouger, quoi. Ouais. Et c'est qui était plus en tension, en fait. Okay. Ça, c'est pas bon. Okay. Et du coup, le toit de la scène, il est tombé sur le plancher, quoi.
Ok.
S'il y a des chaînes qui portent plus d'un côté, ça porte trop de l'autre.
Ouais, et en fait, les moteurs, ils ont débrayé, en fait, parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir la charge, à porter la charge, parce que c'était une grosse scène, quoi.
Ok, ouais. Donc, il n'y a pas eu de blessés, tout ça?
Non, il n'y a pas eu de blessés, malheureusement.
Ok, ouais.
Mais ça reste, c'est là où on se dit que la question de la sécurité, de faire les choses consciencieusement, c'est important, quoi.
Ok. Eh bien, écoute, alors, juste, tu vas bientôt faire une formation, on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, je voulais le dire quand même.
Belle ouverture.
Et voilà, du coup, peut-être on en parlera une prochaine fois, c'est dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Louise, de nous avoir partagé tous ces moments. Et pour les auditrices et les auditeurs, au mois prochain.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.